Bookmakers.
Les écrivains au travail par Richard Guettet
sur Arte Radio.
Je portais la main à la robe à peine. J'effleurais le long des cuisses le renflement des pinces nickelées. Je songeais aux bras blancs de la poésie ancienne dont le sens vrai est cuisse blanche. Elle me saisit au plus vif. Ses ongles de sang frais jouèrent. Elle me dégaina scandaleusement. Mon silex, mon sens. Elle murmura, mais c'était un cri. Sainte Vierge, oui, prends. Montre que tu prends. Dis que tu prends. Tu me pousseras mieux tes cris de fée. Je fus contre elle. Je ne pris pas sa bouche. Pas encore. Ah, Hollande. Je courbai un peu les épaules, les bras tendus. Mon visage plongea dans la crinière bleue. De part et d'autre d'elle, je pris à deux mains l'ourlet bleu nuit. Je troussai haut. Quand elle eut ses jupes levées à la taille et qu'alors elle gémit, je revis en un éclair la grotte toute blanche. C'était du lait.
En 2023, les fans de Pierre Michon ont vu leurs joues rougir. Après 14 ans de quasi-silence bibliographique, leur idole a scandaleusement dégainé un nouveau livre, intitulé « La petite beune ». Un texte érotomane d'un bout à l'autre, souligne l'auteur avec malice, pour lequel il a fallu réapprendre à se contenter de peu. Seulement 74 pages, et la suite directe d'un roman pas plus gros de 1995, La Grande Beune, dont les premières ébauches remontent à la fin des années 80. Si vous avez manqué le début, en 1961, près de la grotte de Lascaux, sur les bords d'une rivière de Dordogne, un instituteur de 20 ans, prénommé Pierre, nourrit un désir inassouvi pour une buraliste de 15 ans son aînée, Yvonne, grande brune au visage royal, énigme que rien ne dénoue, qui ressemble à Ava Gardner dans La Comtesse aux pieds nus. En partie inspirée par une femme mûre que Pierre Michon a épiée dans les bois du temps de ses 15 ans, le roman surprend si on le lit avec les lunettes d'aujourd'hui. Son regard sur Yvonne se focalise sur son corps, sa sensualité, sans chercher à nous faire connaître ses pensées. Publié chez Verdier, les deux beunes ainsi rassemblées se sont vendues à 25 000 exemplaires et firent, comme à l'époque de Vie minuscule, la une du monde des livres qui parla de miracle. Pour Michon, construire une phrase est un dispositif de désir. Il encourage à écrire dans l'ivresse et la fièvre, à corps perdu, pour que le texte jaillisse d'un jet, d'une seule coulée, en joignant à sa quête de la phrase parfaite des phrases qui boitent, telles qu'il le conseille dans Corps du roi. Pour nourrir le feu de ce troisième et dernier épisode, l'ami Pierrot évoque aussi bien les chocolats métaphysiques de Pessoa que ses relations avec ses éditeurs, tout en répondant à trois questions de sa jeune consoeur, Maria Pourchet, et nous invite à méditer ce mantra fourré à la dynamite. Pour écrire, il faut vouloir percer quelques murs, croire que prodigieusement, les mots vont y entamer une brèche. Le Miche allume la mèche. Pierre Michon.
C'est moi.
J'aimerais maintenant parler de votre rythme de travail. Vous ne vous mettez pas à votre table tous les matins. Vous attendez le texte. « J'attends comme un bœuf », dites-vous, pour reprendre la formule de Kafka dans son journal. Vous êtes très passif. Contrairement à beaucoup d'écrivains et d'écrivaines qui s'en sortent à peu près en travaillant tous les jours, votre relation au texte est une lutte. Vous écrivez très rarement, lors de périodes maniaques, par tranches successives de petites illuminations. Vous êtes en période maniaque en ce moment ?
Ah oui, je suis en période maniaque depuis que je suis là.
Là, dans cette maison, depuis 2021.
J'ai eu des périodes de silence de 4 ans. Les carnets, j'en noircissais 10 pages par mois, hein. C'est tout. C'était quand même un de mes grands regrets, ça, d'avoir été obligé d'attendre l'étincelle à chaque fois, au lieu quand même de la forcer un petit peu, nom de Dieu. Ce que je fais quand même plus maintenant.
Lors de ces périodes, vous vous levez bien avant le soleil, à 5 heures, pour pouvoir écrire dès 5h30 ?
Très souvent.
C'est ce que vous avez fait ce matin ?
Non. J'ai été crevé hier par une équipe de journalistes. C'était Arte.
Arte Radio, c'est les pires.
C'est les pires. Donc j'ai pas pu me lever ce matin.
Vous écrivez d'abord au crayon ?
J'ai d'abord écrit uniquement à la main. Parce que c'est un côté corporel, vous savez. Le corps passe vraiment. La pulsion, son désir passe quand il écrit. Et puis, petit à petit, avec les ordinateurs, j'alterne. Ça change un peu le rythme. C'est-à-dire, ça raccourcit un peu les phrases. Parce que la phrase à la main a tendance à aller beaucoup plus loin. Sur l'ordinateur, on ne peut pas. Donc, il faut serrer un peu plus. Tiens, le texte que je viens de lire, là.
L'extrait de la petite bonne ?
C'est tout des phrases d'une ligne. Hein. Pour moi, c'est des phrases d'ordinateur. Il y a un gros défaut de l'ordinateur, c'est gonfler le texte. Et revenir sans cesse et dire « Ah, mais là, je pourrais dire aussi que… » etc. À la fin, vous avez un bébé joufflu et obèse, c'est plus du tout ce que vous vouliez dire. Il ne faut pas toujours se laisser faire par les possibilités infinies qu'il offre.
Quand vous vous levez en étant prêt à travailler dès 5h30, vous continuez jusqu'à midi ?
Jusqu'à midi encore, c'est long, hein, jusqu'à 11h, quand je me lève à 5h. Mais si je me lève à 7h, en ce moment, c'est plutôt ça. Et là, je vais jusqu'à midi. Puis je dors, puis je réécris l'après-midi maintenant. Maintenant, j'ai écrit n'importe quand. Quand j'étais en meilleure santé, je n'écrivais pas l'après-midi.
L'après-midi était dévoué à la lecture, aux prises de notes ?
C'est toujours dévoué à la lecture, mais il y a aussi une chose qui me fait gagner beaucoup de temps, c'est de ne plus fumer. En faisant du tourisme, par exemple, à l'étranger. Vous êtes devant une église éthiopienne, superbe. Regardez tous les détails. Si vous fumez, oh putain, quelle beauté, vous allumez un clope. Vous auriez vu 3 chapiteaux. Ça ne devrait pas être marqué « Fumais-tu ?» parce que c'est faux, la preuve. Mais on devrait marquer « Fumer prend du temps ».
Vous travaillez 7 jours sur 7 ?
Ça dépend. Je ne respecte pas le repos dominical, mon père. Donc je ne le respecte pas.
Dites donc.
7 jours sur 7, mais seulement 2 mois par an, en moyenne.
Non, ça c'était... C'est toujours pareil dans les interviews, on répond avec l'être qu'on est à ce moment-là. Or, l'être est changeant. On n'est pas toujours le même. Comme disait Baudelaire, ça doit être inscrit dans les droits de l'homme, le droit de changer.
Le geste artistique le plus admirable du monde, c'est pour vous, je cite, « celui des vieux peintres asiatiques. Pendant 10 ans, ils ne font rien. Un jour, ils se promènent au bord d'un lac et peignent, en 2 minutes et 3 coups de pinceau, un canard magnifique. » Vous avez écrit les 93 pages de « Vie de Joseph Roulin », votre second livre, sorti en 1988 et qui vient d'être réédité en poche chez Verdier, en une semaine, mais après 6 mois de macération morose.
Il y a un texte que j'ai fait en 3 semaines, c'est « AB ». J'étais dans un HP pour me désintoxiquer, parce que j'ai fait une forte poussée alcoolique, et il a fallu que j'aille en HP pour écrire ce bouquin qui était fait de briques et de brocs, et où à chaque début, je fais semblant d'avoir été surdocumenté pour écrire un truc que j'invente.
Je tiens de chroniques de seconde main. 2. La statistique générale de la Vendée, imprimée à Fontenay-le-Comte en 1844, le récit que je m'apprête à raconter.
Vous savez, il y a une dimension dont personne ne parle. Quand j'écris, je rigole beaucoup aussi.
Je tiens encore de Petrus Malleas en 6, qui écrivent sa chronique sous les ordres de Maillezais, qui sûrement ne s'appelait pas Pierre mais avait choisi ce prénom monastique en renonçant au monde et qui n'était pas davantage de Maillezais ni par sa carrière. De ces deux-là, l'obscur et le célèbre, je tiens l'histoire que voici. De ce pur nom, je tiens le récit que je vais dire.
Je fais dans le marbre, mais je vous dis. Attention, c'est du carton-pâte. Je voudrais montrer un colosse au pied d'argile.
Vous avez dit, j'écris des récits courts, dégraissés, resserrés. Si le bouillon est trop allongé, l'énonciation se perd. Le récit bref interdit au lecteur la lecture plurielle, lui ôte sa liberté, le charme au sens fort. Je recherche l'épure du roman, son minimum vital, ce qui lui suffit. Que faut-il couper ? En priorité, voire en toutes circonstances.
C'est les adverbes et les adjectifs. J'en mets trop. Je le sais, c'est comme ça. Pourtant, j'en vire. J'en vire en nombre, vous n'imaginez pas. Impétueusement, péremptoirement. Il dit, virgule, péremptoire, il n'en sera rien.
Il y en a un que j'aime bien dans un de vos textes, qui est fierotement.
Fierotement. J'en invente plein, tout doucettement. Quand je lis des bouquins, je ne sais pas, de grands romanciers, leurs digressions me plaisent. Mais comme mon genre ne peut pas se permettre la digression dans son petit format, il peut se permettre une digression d'une phrase, d'une parenthèse, mais pas plus. Sinon, tout est cassé. Il faut que l'intérêt soit un, qu'il n'y ait pas 50 points d'intérêt, qu'il y en ait un.
Il vous arrive de réécrire 10 fois la première page? Mais vous dites pourtant que vous ne ciselez rien. Et là, j'ai du mal à vous croire.
Des fois, je fais un début. Je me dis, c'est pas celui-là qu'il vaut. Je recommence un début, hein, jusqu'à ce que j'ai la page de début telle que je la veux.
Vous attendez de trouver le bon début.
Voilà. Pour le début de Joseph Roulin, 10 fois. Mais c'était à chaque fois un point de vue narratif différent. C'était pas la même page. Quoi. Ça commençait par un monologue au lieu des faits brutaux qui maintenant sont « L'un fut nommé là ».
L'un fut nommé là par la compagnie des postes, arbitrairement ou selon ses vœux. L'autre y vint parce qu'il avait lu des livres, parce que c'était le sud où il croyait que l'argent était moins rare, les femmes plus clémentes et les ciels excessifs, japonais, parce qu'il fuyait. Des hasards les jetèrent dans la ville d'Arles en 1888. Ces deux hommes, si dissemblables, se plurent. En tout cas, l'apparence de l'un, l'aîné, plut assez à l'autre pour qu'il la peignît 4 ou 5 fois. On croit donc connaître les traits qu'il avait cette année-là, à 47 ans, comme on connaît ceux de Louis XIV dans tous ses âges, ou d'Innocent X en 1650. Et sur ses portraits, en effet, il reste couvert comme un roi. Il est assis comme un pape. Cela suffit.
Pierre Michon, vie de Joseph Roulin.
Un texte s'élabore à un niveau narratif qu'il faut trouver. Ça n'est jamais tout à fait le même, que ça soit il ou je. Moi, je préfère de beaucoup le je. Dans le dernier livre, là, presque tout le monde dit je, même la reine de Crète, il y avait un taureau blanc qui est sorti de la mer, elle est tombée amoureuse, ils sont tombés amoureux. C'est à la première personne. C'est moi, la reine de Crète, jusqu'à ce que le taureau la monte.
Quelle est la fonction du point-virgule, selon vous?
C'est un truc dont je ne peux pas me débarrasser. C'est une respiration de la phrase. J'ai pris ça au berceau. Je le garderai jusqu'à la mort. Ah, ma phrase n'est pas finie, mais respirons un peu dans le toc. ça peut servir, par exemple, à changer totalement de sens. Et à l'intérieur même d'une seule phrase, elle l'aimait, point, elle ne l'aimait pas. Vous pouvez dire, elle l'aimait, point virgule, elle ne l'aimait pas. Séparé par un point, c'est deux réalités différentes qui sont inconciliables, alors qu'avec le point virgule, elles se concilient. Le point virgule permet beaucoup de modulation du sens. Ça n'a pas la même saveur. Et puis, il est beau à l'oreille.
Il était du nombre de ces écrivains qui commençaient à dire, et sûrement à penser, que l'écrivain servait à quelque chose, qu'il n'était pas ce que jusque-là on avait cru, qu'il n'était pas cette exquise superfluité à l'usage des grands, cette frivolité sonnante, galante, épique, à sortir de la manche d'un roi et à produire devant des jeunes filles plus ou moins vêtues dans Saint-Cyr ou dans le parc aux cerfs. Pas un castrat ni un jongleur, pas un bel objet plein d'éclats enchâssé dans la couronne des princes, pas une maquerelle, pas un chambellan du verbe, pas un commis aux jouissances, rien de tout cela, mais un esprit. Un fort conglomérat de sensibilité et de raison à jeter dans la pâte humaine universelle pour la faire lever. Un multiplicateur de l'homme, une puissance d'accroissement de l'homme comme les cornues le sont de l'or et les alambics du vin, une puissante machine à augmenter le bonheur. On appelle ce coup de pouce les écrivains des Lumières. Vous l'avez dit, monsieur. Et réellement, ils étaient du côté de la lumière. Même et surtout, s'ils avaient la pénible certitude d'être une taupe sortant le nez d'une cour de cave. Car quelle que soit l'illusion ou l'imposture fondatrice, le trucage pour mettre Dieu dans le nid que lui préparait leur page, l'appétit limousin qu'ils tenaient debout, ils furent le sel de la terre à leur façon.
Pierre Michon, Les Onze.
L'extrait que vous venez d'entendre est composé de seulement trois phrases avec cinq points-virgules.
Il y a quelque chose que je ne peux pas faire, par exemple, quoique j'adore quand je le lise, c'est le trois points, c'est ligne 1. Je ne peux pas. Je ne vois pas où les placer.
Vous avez un jour décrit votre écriture à la revue La Femelle du Requin de cette manière. Une langue pseudo-classique, un peu 17e-miste, un peu flaubertienne aussi, mais comme minée par l'argot, par une certaine dérision violente, par un jeu incongru qui bousille de l'intérieur la belle langue universaliste des grands siècles. Vous avez aussi dit que cette forme, ce type d'écriture-là, vous déplorez la limitation qu'elle vous impose. En conséquence, l'écrivain que vous enviez le plus, qui n'est pas le même que ceux que vous admirez, que vous enviez le plus, c'est le portugais Fernando Pessoa, l'auteur du livre de l'intranquillité. Est-ce que c'est parce qu'il avait autant de style que d'identité avec ses trois voire quatre noms de plumes ?
Oui, il avait plus de quatre. Oui, c'est parce qu'il a changé sans arrêt d'identité et de plume, ce qui est plus rare. C'est-à-dire que la plume de Pessoa n'est pas la même que celle de...
Ricardo Reis.
Alvaro de Campos.
Alexander Serge.
Alberto Caeiro.
Bernardo Suarez.
Rafael Baldaya.
Maria José.
Vicente Guérez.
J'admire beaucoup et le fait de pouvoir changer d'identité, etc. Mais je ne le regrette plus maintenant.
Avez-vous été tenté une nuit de prendre un autre nom ?
Ah oui. Pour changer de ton. C'est pas pour écrire des choses cachées. C'est pour devenir un autre être écrivant. Mais non, je suis condamné à mon rocher de Sisyphe personnel.
Il y a 2 ans, dans ce podcast, j'ai interrogé une écrivaine qui vous admire énormément, Maria Pourchet, l'autrice de Feu ou de Toutes les femmes sauf une.
Quand je lis Michon, ça pétille, mais sans un mot de trop. C'est un chant. C'est une méditation. Je pourrais lire la même page inlassablement. Il y a quelque chose de psychotrope. Comme s'il connaissait bien les hommes depuis la nuit des temps. Il connaît bien la solitude, il connaît bien la violence des rapports entre l'homme et la nature, la violence des rapports entre l'homme et Dieu.
Mais c'est vrai, non mais Duras se disait admirablement ça, que ce qui nous porte à ce moment-là, ça vient du tréfond de l'espèce humaine. Ça a l'air éternel. Prenez des textes que Rimbaud a fait à 18 ans, « J'ai embrassé l'aube d'été ». Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte. Qui dit ça? Quel très vieil homme dit ça?
J'ai demandé à Maria Pourchet si elle avait, par hasard, une question à vous transmettre. Elle m'en a transmis trois. Voici la première. Cher Pierre Michon, avez-vous déjà pleuré en écrivant?
Ah, j'ai sangloté. Autant que j'ai éclaté de rire, j'ai sangloté. Quand je trouve des choses qui, excusez-moi, je suis immodeste, mais qui me bouleversent de beauté, je me dis tout à coup, mais est-ce possible? Est-ce toi, Charles Baudelaire, qui me tient la main? Est-ce toi, William Faulkner? Ah, j'ai sangloté. Et il m'arrive encore de pleurer, mais moins fort, parce que j'ai vieilli. Mais ah oui, oui, Les Vies minuscules, ça a été écrit dans des sanglots. D'autres sanglots dans Les Vies minuscules. Il y avait le deuil de mes grands-parents, il y avait le vieux sanglot du deuil familial dont je ne connais pas la cause.
C'était quand la dernière fois que vous avez pleuré en écrivant?
C'était en écrivant un texte du dernier bouquin.
Apparaître.
Qui s'appelle « J'invente un Dieu ». Je mets en scène, dans un bistrot perdu dans la campagne, des hommes que j'ai connus, qui sont morts, qui n'étaient pas beaucoup plus vieux que moi, mais qui avait 30 ou 40 ans plus que moi. Et l'évocation de ces trois bons hommes m'a fait pleurer, mais pleurer sentimentalement. Je veux dire, comment lui tenait son verre, comment l'autre avait son mégot là, qui rallumait tout le temps. Là, j'ai vu Victor, Gustave et Lucien. Je les ai vus.
Deuxième question de Maria Pourchet. Avez-vous déjà sacrifié un amour pour un livre?
Jamais. Pour écrire, jamais. Je n'ai jamais pensé même qu'on me poserait cette question. Non, les amours se sont sacrifiés d'eux-mêmes, que ce soit de mon côté ou de l'autre.
Troisième et dernière question de Maria Pourchet. Avez-vous déjà remarqué si vous aviez des imitateurs?
Des imitateurs, ah oui, j'en ai. Il y a de grands écrivains Limousin, qui n'existerait pas s'il n'avait pas lu Les Vies minuscules. Je dirais même tous les écrivains Limousin. À l'époque où j'ai commencé à écrire, on écrivait le plus couramment cet arbre auquel je m'intéressais. Et moi, j'ai décidé de mettre cet arbre à quoi je m'intéressais, ce à quoi je suis le premier à l'avoir introduit de façon systématique en littérature.
Paradoxalement, le livre le plus long de Pierre Michon s'intitule « Le roi vient quand il veut », publié chez Albin Michel. C'est 370 pages, parmi lesquelles j'ai puisé bon nombre d'informations pour notre conversation, se compose d'entretiens sur la littérature donnés par l'auteur entre 1989 et 2007. Les entretiens à Libé, aux Inrock, au magazine littéraire ou à la revue La Femelle du Requin. Réunis et édités par la suite par Agnès Castiglione et Pierre-Marc de Biasi, l'ouvrage déborde de considérations extrêmement précieuses. En voici quelques exemples.
Bondir hors du consensus est une condition essentielle.
La pellicule d'or de la belle langue doit être travaillée en dessous par la boue des patois.
Comme le notait Saint-Cyran, il ne faut pas en faire tout un plat. Être plus longtemps à peser les mots qu'un avare ne serait à peser l'or. Pas d'idéologie gourmée de l'écriture. La langue, le son, ses nombres ne nous émeuvent que s'ils forcent le sens, le révèlent. À défaut de cela,
l'écriture est un petit travail maniaque, voué au vide, à l'oubli sans fond.
Dans un texte, on peut laisser visible ce que les peintres appellent les repentirs, les ébauches, les hésitations. La trace de tout cela est permise à l'écrivain, quand, au contraire, le peintre fait tout pour l'effacer.
J'approche l'écriture par des traverses, des biais, les mille ruses de la latéralité. Ça marche si mon angle d'attaque latéral est juste, et ça ne marche pas si j'aborde mon sujet frontalement. Je passe mon temps à déplacer le tabouret.
Non, pas de plan, jamais. Ce serait une sorte de travail.
J'ai entendu que on vous proposait peut-être de passer en Pléiade.
C'est-à-dire le contrat est signé depuis longtemps avec le directeur de la Pléiade, mais le grand chef de Gallimard ne consent à signer que quand j'aurai remis le manuscrit que j'ai à lui remettre là.
Le livre sur lequel vous travaillez ?
Oui.
Donc en fait, vous ne passez en Pléiade qu'à la condition de remettre le manuscrit chez Gallimard ?
C'est pas une condition, c'est bien normal. C'est une très vieille commande de Gallimard que j'honore. D'abord été signée au Seuil. Gallimard a racheté au Seuil. Il y a 30 ans que j'ai signé ce contrat.
Ah ouais. Vous avez dit, si je n'avais pas écrit Vie minuscule, je serais certainement dans le métro à faire la manche. À sa sortie en 1984, je pensais que toutes les machines s'arrêteraient de tourner, que tout le monde dirait « celui-là, il faut lui donner sur le champ une fortune, avec laquelle je me serais acheté un palais ». J'attendais de l'écrit « son poids d'or ». Je me suis trompé. Je ne savais pas que la littérature est fille de la démocratie, au sens où c'est la loi du plus grand nombre qui prévaut, la tyrannie de la majorité. Je pensais que la littérature était l'un des derniers domaines hiérarchisés où la valeur faisait sens et triait. Eh bien, la valeur a fait sens et elle a trié. Je suis presque aussi pauvre qu'avant d'avoir écrit. Est-ce qu'on peut parler d'argent ?
Oui, si vous voulez. L'argent, ça a toujours été difficile pour moi. Ma mère m'a aidé beaucoup. Les femmes ont toujours été avec moi impeccables au niveau matériel. Je dois aux femmes ma vie. Je leur dois la vie.
Rentrons dans les détails, si vous le voulez bien. Vous souvenez-vous, à peu près, à combien s'élevait la valeur reçue des éditions Gallimard pour Vie minuscule en 1984 ?
Oh, l'équivalent de 800 euros maintenant. Après, j'ai eu des aides du CNL.
Le Centre National du Livre, qui délivre trois fois par an des bourses allant de 2000 à 30 000 euros.
Et puis, il y a les prix. J'ai eu souvent des prix ici ou là.
En 2019, vous avez reçu le prix Franz Kafka, assorti d'une récompense de 10 000 dollars. En 2022, vous avez reçu le prix de la Bibliothèque nationale de France, doté de 10 000 euros. Diriez-vous que ces récompenses qui émaillent votre parcours ont davantage assuré votre survie économique que les ventes des livres elles-mêmes ?
Peut-être bien, oui. Là, j'ai le prix de Lampedusa.
Oui, le 8 juin dernier, vous avez reçu le prix Lampedusa pour l'ensemble de votre œuvre. Est-il doté ?
Je crois que c'est 10 000 balles aussi. C'est en Sicile. Et je vais y aller.
Ah bon ?
Ils ont tout mis au point. Ambulance, avion avec... truc. Pourvu que je crève pas en Sicile le 3 août.
Vous y allez en août ?
Ouais, mais Élodie sera là. Donc je serai comme un prince. Enfin, comme un prince...
Le prince Lampedusa ?
Oui, le prince Lampedusa, sans le souffle.
À combien s'élève en moyenne la valeur reçue des éditions Verdier pour la douzaine de livres publiés dans cette maison depuis Vie de Joseph Roulin en 1988 ? En moyenne, un avaloir chez Verdier, c'est quoi ?
Verdier a fait pour moi quelque chose d'admirable. C'est qu'après les 11, pendant 3 ans, ils m'ont versé 3000 euros par mois.
Le livre a reçu le grand prix du roman de l'Académie française et s'est vendu depuis, tout format confondu, à 93 000 exemplaires. Ce qui explique sans doute cette rémunération assez inhabituelle.
Je respirais, ouais.
Vous êtes l'un des rares écrivains, à ma connaissance, à accueillir avec joie le principe de la commande. vos livres Rimbaud le Fils, Les Deux Beunes ou Abbé, au départ, ce sont des commandes d'un éditeur, d'une revue, d'une région, ce qui permet d'avoir un cadre et des délais. Abbé, sorti en 2002, vous a permis de recevoir 20 000 francs des Pays de la Loire pour parler de la Vendée, ce qui représente 4 325 euros d'aujourd'hui, ce qui n'est pas énorme. Mais vous recevrez cette année-là, pour ce livre et un autre, Corps du Roi, le prix décembre, qui est doté de 30 000 euros, ce qui met un peu de beurre dans les épinards.
Le prix décembre, c'était bien, ouais.
J'ajoute que ces deux petits ouvrages se sont vendus en outre chacun à 20 000 exemplaires ces 20 dernières années. Touchez-vous une retraite ?
500 euros.
Par mois ?
Oui. À l'époque, je disais, moi j'ai un répondeur. Si vous êtes Steven Spielberg, tapez 1. Sinon, raccrochez. Parce que je voulais absolument gagner du fric sur des films. Mais je pense quand même que pour Les Deux Beunes, là, mon dernier, qui est érotique, il va bien y avoir quelqu'un qui va finir par le faire.
Une question de nos réalisateurs Samuel Hirsch et Charlie Marcellet. Quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre œuvre, à votre univers littéraire ?
Quand un avion décolle, que je suis dans l'avion.
PNC, position décollage.
Le jet, quand il passe au réacteur. Et quand il... Ah ! Ça, c'est le son de celui qui s'élève vers la littérature ou Dieu. Les nuages. Les merveilleux nuages.
Vous avez dit, la littérature est une forme déchue de la prière d'un monde sans Dieu. Vous êtes souvent revenu aux sources du creuset catholique pour y trouver des repères. Puis-je vous demander, avant de partir, si vous avez quelque chose à nous confesser ou une dernière prière à nous adresser ?
J'ai à vous dire en tout cas que c'est une forme qui n'est pas déchue de la prière. C'est de la pure prière. Je n'ai rien à confesser, sinon que Il me semble que j'ai trouvé la paix.
À quoi pensez-vous, Pierre Michon ?
Je pense à ce héros de Borges dont l'activité mentale était continue, passionnée et complètement insignifiante. Je pense que peu de choses m'auront donné autant de plaisir que la nomenclature des dieux aztèques. Je pense aux déambulations d'Antonin Artaud dans Paris en 1946. Je pense à la météorite tombée sur Chesulub il y a 64 millions d'années qui a libéré 100 millions de tonnes d'énergie et balayé les dinosaures comme des mouches. Je pense aux vaches dans les prés le soir et aux chevreuils qui traversent la route quand la nuit tombe. Je pense au petit cheval gris mal dressé que montait Bonaparte le soir de Waterloo. Je pense à Bergougnou parmi ses arbres, à Volodine parmi ses ours. Je pense à la phrase que prononcerait l'œuvre d'art si elle pouvait parler. Je pense aux salamandres géantes dont le capitaine Ahab postulait qu'elle et elle seule rencontre la claire vérité. je pense à la passion du carbone pour l'oxygène. Vous fumez un clope, ça tombe sur le lit, vous êtes bourré. Ça brûle tout, c'est l'oxygène, le carbone qui copule tranquillement pendant que vous, vous crevez. Je pense à une femme chantant comme le coucou. Coucou, coucou, dans la forêt de Chambord. Et le coucou chantait, et le coucou chantait. Je pense à une villageoise morte vers 1950, qui disait vouloir éviter deux choses, faire souffrir et souffrir. Je pense à la petite fille qui mange des chocolats métaphysiques dans un poème de Pessoa, et à cette autre à laquelle il dit « Quand je mourrai, fillette, que ce soit moi l'enfant le plus petit ».
Merci beaucoup, Pierre Michon.
Merci, vous avez été charmant.
Et c'est sur ces pensées, écrites par Pierre Michon quelques heures avant l'an 2000, lisibles en intégralité dans les cahiers de Lerne, que nous quittons sans bruit sa demeure en caressant le chien de son voisin médecin. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce nouveau numéro de Bookmakers, les écrivains au travail. Très grand merci, surtout à mes complices. Mathilde Guermont-Pré pour la prise de son et la conduite automobile, Timothée Lerol pour le montage et les lectures, Charlie Marcellet pour la réalisation et le mixage, Perrine Kervran pour les retours attentifs, Samuel Hirsch pour les musiques originales, Ricky Hollywood pour sa reprise groovy et aérienne de notre générique à la batterie et au synthétiseur que vous entendez en ce moment même. Sans oublier Sylvain Cabot pour le portrait dessiné de l'invité visible en ligne. Je remercie enfin notre entremetteur, Yann Potin, sans qui cette rencontre n'aurait pas été possible. En 2023, Pierre Michon a dit à la télévision que la plus belle phrase du monde se trouve dans Madame Bovary, mais sans préciser laquelle. Il ne donnait qu'un indice. Cette phrase, signée Flaubert, se termine par « la nuit ». J'ai trouvé 5 phrases dans le roman qui se finissent ainsi. Voici la plus émouvante. Sur la fosse, entre les sapins, un enfant pleurait agenouillé, et sa poitrine, brisée par les sanglots, haletait dans l'ombre, sous la pression d'un regret immense, plus doux que la lune et plus insondable que la nuit. La prochaine fois, je recevrai, avec joie,
Mona Chollet.